Que tout soit fait pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom au milieu de nous, Père éternel. Viens nous éclairer, car nous avons soif de toi, Seigneur. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous voulons entendre ta douce voix qui nous parle. Il est écrit que ton serviteur, Père Jésus, ne criera point. Il ne va pas ameuter les gens, mais il va annoncer ta parole avec fidélité. Et nous sommes ses successeurs, ses descendants, et nous voulons faire la même chose. Nous ne voulons forcer personne. Nous voulons dire ce qu'est ta parole et que chacun prenne la décision qu'il s'impose. Au nom de Jésus-Christ, que nos cœurs soient préparés et après ta parole, qu'ils soient transformés. Amen. Nous lisons dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 16. On peut même commencer à partir du verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie, à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Voilà le texte principal d'aujourd'hui. Je commence par une question. Pourquoi Jésus s'emporte-t-il autant lorsque Pierre lui dit « Jésus, il ne t'arrivera pas les souffrances que tu décris. Tu ne mourras pas, quoi. À Dieu ne plaise. » Jésus s'emporte. Il dit « Arrière de moi, Satan. » Et il poursuit en disant, les pensées que tu exprimes ne sont pas des pensées de Dieu, mais ce sont des pensées des hommes. D'un côté, il dit, arrière de moi, Satan, De l'autre côté, il dit, ce sont des pensées des hommes. Donc, la pensée qu'a sortie Pierre était une pensée d'homme. Mais cependant, l'esprit qui animait ce genre de façon de faire, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est que le diable a l'habitude de pousser les hommes à utiliser leur raisonnement dans leur relation avec Dieu. C'est ça une des grosses stratégies du diable. C'est ainsi que l'homme va se dire, mais tiens, c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui ai pensé, et donc je ne crois pas que ce soit un esprit qui m'ait inspiré cette façon de faire. Mais pourtant, Jésus a bien dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, en disant Pierre, mais ce sont des pensées d'homme. Donc, puisque c'est une pensée d'homme, forcément, c'est le système de penser, de faire, c'est cette façon de faire que Jésus condamne. Donc Jésus veut dire qu'un homme qui se laisse conduire par ses propres pensées est en réalité conduit par Satan. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre. Ça, ce sont tes pensées. Et en réalité, cette façon de faire ne vient pas de Dieu. Cette façon de faire que l'homme se laisse conduire par ses propres raisonnements, cette façon de faire, elle vient du diable. Jésus s'emporte. Pourquoi? Parce que Pierre lui dit que tu ne souffriras pas, tu ne mourras pas. Mais aujourd'hui, si quelqu'un nous disait ça, qui va s'emporter? Personne. Les gens seront contents qu'on leur dise, mais tu es béni. Ton avenir est tout tracé, point de souffrance. Mais Jésus, lui, se fâche quand on lui dit ça. Parce qu'il a clairement exposé le but pour lequel il était venu. Il était venu souffrir et mourir et ressusciter le troisième jour. Et Pierre, dans sa logique humaine, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, on n'a jamais vu de prédicateur comme Jésus. On n'a jamais vu de prophète comme Jésus. Qui ait fait autant de miracles. Dans Jean 8, 46, Jésus lui-même dit, « Qui me convaincra de péché ?» C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trouver le péché en Jésus. Donc, d'une manière humaine, Jésus, on pouvait dire, au moment où Pierre lui parlait, en lui disant, « Tu es le Fils de Dieu », d'une manière humaine, on pouvait dire que Jésus-Christ a fait mieux que tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Jésus-Christ a prêché la parole mieux que tous les prophètes qui l'ont précédé. Il a fait des miracles plus que tous les prophètes qui l'avaient précédé. À la manière des hommes, Pierre était satisfait. C'est pourquoi, pour lui, en disant « Tu es le Fils de Dieu », c'était là, c'est bon. Jésus a reçu le diplôme « Fils de Dieu ». C'est bon, donc ça peut s'arrêter là. Mais Jésus, qui connaissait la pensée de Dieu, qui connaissait l'objectif de Dieu, savait qu'il devait souffrir et mourir. Sans cela, nous ne serions pas sauvés. En quelque sorte, sans négliger la première partie de la mission de Jésus, qui était annoncer la parole, montrer que Dieu était amour par des miracles et que Dieu était tout-puissant, la grande partie de la mission de Jésus, c'était souffrir et mourir. Parce que c'était le chemin qui a mené notre salut. Il fallait qu'un autre homme prenne nos péchés sur lui et qu'il souffre à notre place et qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour, produisant une nouvelle race, la race des enfants de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ma prédication aujourd'hui, c'est 100% pour Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est emporté parce qu'on a voulu qu'il fasse sa mission à moitié. Peut-être même pas à moitié, à 30% parce que la grande mission de Jésus, c'était la souffrance et la mort. C'est ainsi que quand le prophète Jean-Baptiste l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc sa mission principale, c'était enlever le péché du monde par ses souffrances et sa mort à la croix. Et il avait une autre, dans ce travail-là de mort à la croix, c'était aussi pour entrer dans la mort, vaincre la mort et produire une nouvelle race qui ressuscitera après la mort. D'une manière humaine, Jésus en avait fait suffisamment, puisqu'il avait fait mieux que tous les autres. Si tu es déjà premier de classe, qu'est-ce qu'on peut te demander de plus, puisque tu es déjà le premier? Voilà le raisonnement humain. Mais Dieu n'est pas dans ce raisonnement-là. Dieu voulait que Jésus se donne lui-même par la mort. C'était son objectif principal. Alors, réfléchissons. Si Jésus a refusé au point de se fâcher qu'on lui promette qu'il ne mourra pas, qu'il ne souffrira pas. Il est écrit qu'il est notre modèle, que nous devons l'imiter lui. Le disciple doit être comme le maître. Ce que Jésus demande, c'est une conversion à 100%. Remarquez aujourd'hui, bien-aimés, autour de nous, est-ce que vous entendez des gens qui vont dans des missions qui sont susceptibles parfois de leur causer la mort? On n'entend plus ce genre de nouvelles. Comme quoi, un tel est parti dans tel pays dangereux pour apporter l'évangile. On n'entend plus parler de ça. Comme les Edmé Cottier, dans les années 20, une jeune femme très belle qui était partie en Angola avec tous les risques à porter la bonne nouvelle. Comme Jackie Pullinger, à 23 ans, était partie à Hong Kong, dans la cité interdite, la cité des mafieux, à porter la bonne nouvelle. Est-ce qu'on entend encore ce genre de nouvelles, qu'une telle personne a tout lâché pour aller dans un autre pays faire l'œuvre de Dieu? On n'entend plus ça. Bien-aimés, les conversions d'aujourd'hui, beaucoup sont tronquées. Et il n'y a pas de honte à s'examiner et à dire, Seigneur, ma conversion est tronquée. Il faut être dans la vérité. Qui aurait souhaité sortir du ventre de sa mère non achevé? Personne. Nous sommes heureux d'être nés des hommes et des femmes complets. Parce que nous voulions être hommes. Vous savez, quand vous voyez les images du fœtus, il y a une période où il ne ressemble pas totalement à un humain. Il y a une période où les doigts ne sont pas complètement formés. Les orteils ne sont pas complètement formés. Qui aurait souhaité que son enfant sorte dans ces conditions-là et vive comme cela? Un homme inachevé? Personne. Comment voulez-vous que Dieu produise des chrétiens inachevés? Il ne voudra pas. C'est aussi simple que ça. Vous savez, souvent ce qu'on demande à quelqu'un d'autre, nous-mêmes, on ne l'accepte pas pour nous-mêmes. On veut être des chrétiens inachevés, alors que nous, on ne veut pas produire des bébés inachevés. Mais Dieu, lui aussi, pour lui, nous sommes des bébés quand nous venons à Jésus. Il faut que ce soit des bébés achevés. C'est-à-dire qui sont complètement à lui, qui sont à 100% pour lui, qui sont des nouvelles créatures réelles. Il ne se contentera pas des bébés inachevés. Un des problèmes que nous connaissons à notre époque, c'est que devenir chrétien, ça n'implique pas beaucoup de risques dans la vie. Il y a des difficultés, on ne peut pas négliger ça. Hein? À gauche, à droite, il y a quand même des frères et sœurs qui souffrent d'être chrétiens, qui souffrent dans leur famille, qui souffrent au travail, qui souffrent dans la rue. qui souffre par rapport aux anciens amis. Mais ce n'est pas la même chose que les conversions d'autrefois qui, lorsqu'elles avaient lieu, elles te mettaient dans le risque de perdre même ta vie. Autrefois, quand quelqu'un se convertissait, notamment dans la première église, il était presque condamné à mort parce que les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain, par un État. Aujourd'hui, un chrétien qui se convertit en Arabie Saoudite, en Égypte, en Algérie, quelqu'un qui était musulman, qui se convertit, il est pratiquement condamné à mort. En Iran, il est condamné à mort. Mais est-ce que vous pensez qu'un tel chrétien sera un faux chrétien? Impossible, parce qu'il risque sa vie pour être chrétien. C'est logique qu'un tel chrétien soit à 100%, qu'il ait tout donné. Je veux nous dire aujourd'hui quelque chose. Il n'y a pas de chrétien sans la mort. Si on veut être chrétien, on doit mourir par rapport à l'ancienne vie. Sinon, on n'est pas totalement chrétien. On a peut-être été touché par la grâce de Dieu. On a aimé Dieu, peut-être, mais on ne veut pas qu'il achève son travail en nous. Que l'on sorte, que l'on naisse complet, que l'on naisse chrétien, qu'on le naisse à lui. Il y a un blocage. Jésus s'est fâché parce qu'on a voulu. Pierre a insinué que sa mission pouvait rester inachevée. Jésus a dit non, je dois achever ma mission. Je suis venu pour souffrir et mourir. Et dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut produire une plante. Lorsque le grain est semé, il tombe par terre. Tant qu'il ne meurt pas, il restera quelque chose de brillant et de dur. Mais lorsque le grain meurt, il perd sa beauté. Puisqu'il meurt, il se confond avec la terre. Mais quelques jours plus tard, nous voyons une belle plante commencer à pousser. Et on est dans la joie de voir ce miracle. Mais ce miracle n'a été possible que parce que la première créature est morte. Le grain qui était la première créature est morte. C'est pourquoi il pouvait produire une belle plante plus importante en importance, en grandeur, en beauté que le grain ancien. Parce que la plante qui sort, elle est plus puissante parce qu'elle va produire beaucoup de grains que si elle était restée un grain, ensuite, cette plante peut devenir un grand arbre sur lequel les humains vont prendre des fruits, sur lequel les oiseaux vont s'asseoir. Cet arbre qui va donner l'ombre à beaucoup de gens, qui va faire beaucoup plus de bien qu'un seul grain qui serait resté, entre guillemets, non transformé. Mais beau à voir, parce que le grain qui n'est pas transformé, il est lisse, il est beau à voir. Mais le grain qui meurt, on ne le voit même plus, il a disparu, il a été détruit pour donner place à un arbre. Il n'y a pas, bien-aimé, de chrétien sans la mort. Que personne ne se trompe. Nous sommes dans une société qui vit deux choses. Première chose, l'égoïsme et l'individualisme. Deuxième chose, le raisonnement humain à fond. C'est les deux choses dont beaucoup sont imprégnés et même quand ils viennent à Christ, ils continuent avec ces deux choses. Dans notre société, qui ne connaît plus de guerre directe pendant un moment, nous ne connaissons pas c'est quoi le sacrifice. Nous savons, tout ce que nous savons, c'est qui est-ce que nous devons voter pour avoir nos intérêts satisfaits? Qu'est-ce que nous savons? Quelle grève nous allons faire pour que nos intérêts soient honorés? Qu'est-ce que nous savons? quelle réclamation je vais faire pour que mon salaire soit augmenté? Quel appartement, quel quartier je vais choisir pour bien éduquer mes enfants, pour qu'on soit protégé? L'homme pense tellement à lui que l'idée du sacrifice a disparu. C'est pourquoi il ne peut pas vraiment se convertir à l'évangile. Puisque l'évangile, c'est une mort. Jésus s'est fâché parce qu'on n'a pas voulu, on a voulu l'empêcher d'aller à 100%. Jésus a dit, c'est 100%. Si je ne fais pas 100%, j'ai loupé ma mission. Et si un homme ne meurt pas par rapport à ce qu'il était avant, il n'est pas encore un chrétien. Il ne l'est pas encore. 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Entre guillemets, pour éviter toute forme de confusion, je veux dire que ce n'est pas que Dieu demande que nous soyons parfaits. Personne n'est parfait. Notre frère Paul nous dit dans Philippiens 3, il n'a pas encore gagné la course, mais il court. Il court de gloire en gloire. Nous courons vers la perfection. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous acceptions que le passé soit le passé. Nous acceptions de perdre qui on était avant. Et que lui prenne possession de nos vies à 100%. Nous sommes dans une société où les gens ne veulent pas, je parlais de l'individualisme, de l'égoïsme. La suite de ça, c'est le deuxième point, c'est que les gens, dans leur raisonnement, ils veulent être toujours prudents pour ne pas perdre ce qu'ils ont. Nous avons entendu parler de l'assurance-vie. Nous avons entendu parler des assurances. Les assurances, c'est pourquoi ? C'est pour éviter de perdre ce qu'on a. Nous prenons toutes sortes de précautions et nous sommes parfois dans certains pays. Comme un frère me disait, en France, on nous prend comme des peaux de bébés et donc on s'occupe de nous pour tout. On met des radars pour ceci, la sécurité sociale pour cela, comme si l'homme de lui-même ne pourra pas s'en sortir, il faut que quelqu'un s'occupe de lui comme un bébé. Et donc, l'homme est dans cette logique-là, dans sa façon d'être. Il ne veut pas perdre ce qu'il a. Et il met toutes sortes de systèmes autour de lui pour ne pas perdre ce qu'il a. Un frère encore me disait, mais aujourd'hui on porte plainte parce que quelqu'un est mort pendant la guerre. Donc, les soldats français sont partis en Afghanistan. Un soldat meurt, ses parents ici portent plainte contre l'État. Mais quand on va en guerre quand même, c'est pour parfois mourir. Donc les gens refusent même de mourir pendant la guerre. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les gens veulent conserver ce qu'ils ont. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ne voyons-nous pas que c'est curieux que Jésus l'ait dit, après que lui-même ait refusé l'offre que lui faisait Pierre de ne pas mourir, de ne pas souffrir, il dit, mais vous aussi, vous devez faire comme moi. Parce que moi, vous voyez, j'aurais pu m'arrêter là, dire que j'ai réussi mon boulot de prophète, puisque j'ai annoncé la parole totalement. J'aurais pu m'arrêter là, puisque j'ai fait des miracles. Parce que quand vous lisez la suite de Matthieu 16, on lui demande de faire un miracle. Il a dit, j'en ai, en quelque sorte, il refuse. En quelque sorte, il veut dire que j'en ai fait suffisamment. Donc Jésus, d'une manière humaine, a réussi son travail. Côté prophétie, côté prédication, côté miracle, il a fait mieux que tout le monde. Il pouvait dire, bon, ça y est, c'est bon. Mais il s'est dit, non, ma mission, c'est de souffrir et de mourir afin que d'autres soient sauvés. Je dois donner ma vie en sacrifice à Dieu comme une offrande et c'est ça qui va amener les autres aussi au salut. Et maintenant, quand nous lisons la suite, il dit, mais c'est la même chose que vous. Vous devriez faire la même chose. Si quelqu'un veut venir à moi, verset 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, vous allez entendre des gens vous parler de la modération. Dans la relation avec Dieu, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de calcul. Soit on s'offre à 100%, soit c'est rien. Je comprends que nous sommes dans une société qui nous a formatés à refuser le sacrifice, comme on l'a dit précédemment. Donc même mourir en guerre, les gens refusent. Pendant la guerre, ils refusent. Mais comprenons que la vie chrétienne est une vie qui amène les gens à la mort afin que la vie de Dieu naisse comme un grain qui meurt, afin qu'une belle plante naisse pour produire un grand arbre qui sera des millions de fois plus utile que le grain qui est mort. C'est ça l'objectif de Dieu. Ce n'est pas la mort pour la mort, mais c'est la mort pour la résurrection, pour produire quelque chose de plus grand, de plus puissant, de merveilleux. Et quand vous lisez encore le Matthieu 16, dans la suite, quand on dit à Jésus de faire le miracle, il dit, un peuple méchant et infidèle veut qu'on lui fasse un miracle. Je n'en ferai pas. Aujourd'hui, beaucoup peuvent se poser la question, mais nous voulons les miracles. Mais le peuple méchant est infidèle. Quand nous lisons Matthieu 13, 58, il est écrit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans cet endroit-là parce que les gens étaient incrédules. Bien-aimés, comment nous sommes incapables de faire comme Pierre dans Luc 5? Bien-aimés, pour préparer ce message, ça a été très difficile pour moi. Je parle comme ça. Parce qu'il y a... tout est dans la Bible comme ça. C'est toujours des morts. David, pour affronter Goliath, bien-aimé, vous pensez que c'était aisé? Affronter un géant de 3 mètres. Mais, donc, il a pris le risque de mourir. Tous les serviteurs de Dieu ont pris le risque de mourir pour servir Dieu. Vous pensez qu'aller vers Pharaon avec un bâton à 3 ou à 2 face à Pharaon, imaginez la cruauté de l'époque, imaginez la sauvagerie de l'époque. Moïse se tenir avec un bâton juste et son frère à côté pour dire à Pharaon, libère mon peuple. Vous croyez que n'importe qui peut faire ça? Ce qu'il a fait, il s'est dit, si on me tue, bon, au moins j'ai accompli la mission de Dieu. Il m'a demandé d'aller parler, je risque ma vie. Et c'est la vérité, risquer sa vie. Mais on a vu quoi? Est-ce qu'il est mort? Non. Mais il est mort quand même. Il est mort avant de partir. Avant de partir, il s'est dit, je suis déjà mort. Je vais juste confirmer ça. Mais il est ressuscité. Il est sorti de chez Pharaon avec tous les enfants d'Israël. Amen. Il n'y a pas de service pour Dieu si la personne ne s'inscrit à 100%. Il n'y en a pas. Vous savez, Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas une question de temple ni de montagne pour aller adorer Dieu. C'est un esprit en vérité. C'est de tels adorateurs que Dieu a besoin. Dieu cherche de tels adorateurs. C'est pour dire quoi? Quand on adore autrement, il n'accepte pas ça, il ne s'en occupe même pas. C'est pour dire quoi? Une vie chrétienne qui n'est pas à 100%, c'est une vie chrétienne qui est considérée par Dieu comme non valable. C'est pourquoi dans Matthieu 7, il est écrit que beaucoup diront, Seigneur, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons fait des miracles. Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qui vous intéresse, mais c'est faire vos choses, délivrer, faire des miracles. Vous ne m'avez pas cherché. Dieu veut une vie chrétienne à 100%. Ce n'est pas venir tous les jours à l'église. C'est faux. C'est ne plus compter pour soi-même. Il dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Et renoncer à lui-même, ce n'est pas seulement le fait de faire des activités pour Dieu. Il n'y a pas de renoncement à faire des activités pour Dieu. Peut-être oui, on peut renoncer à faire un sport pour servir Dieu. Mais ça veut dire que le toi d'avant n'existe plus. Tes préférences n'existent plus. Tu es prêt à vivre autre chose avec Dieu. Vous savez, un enfant, quand il naît, il ne respire plus par le cordon ombilical, il respire par le nez maintenant. Il ne mange plus par le cordon ombilical, mais il mange par la bouche. Imaginez un enfant qui naisse et qui refuse de manger par la bouche, ni de respirer par le nez. Donc il va rester attaché à sa maman. Mais nous tous, nous allons appeler quoi ? Nous allons appeler ça quoi ? Mais donc on va dire que c'est un monstre. Ce n'est pas un être normal. Et nous voulons que Dieu accepte des chrétiens de ce genre-là, qui ne veulent pas entrer dans le nouveau avec Dieu, qui veut rester dans le système ancien. Il aimait telle chose avant, il vient à Dieu pour que Dieu continue à lui donner les choses qu'il aimait avant. Non, Dieu, quand tu viens à lui, c'est pour qu'il te donne du nouveau. Et ce nouveau-là peut t'enlever le goût de ce que tu avais avant. Dieu va te donner de belles choses. Au début, tu vas avoir l'impression qu'elles ne sont pas belles parce qu'elles sont différentes de ce que tu aimais avant. Mais quand tu vas les goûter, tu finiras par te rendre compte que c'est bon et que tu ne savais pas, c'est tout, bien-aimé. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme on était avant. Je suis en train de dire clairement que ce n'est pas que nous devenons comme Dieu ou parfaits, mais notre fonctionnement change. C'est ce fonctionnement-là que j'appelle la mort. Donc tu ne fonctionnes plus comme avant. Mais nous restons des humains qui pouvons pécher, mais le sang de Christ nous efface nos péchés. Ce n'est pas à commencer à chercher, mais quel péché j'ai commis, puisque la question du péché a été réglée à la croix. Mais le grand problème, c'est la question du choix personnel de changer de vie, d'entrer dans la vie où on respire avec le nez et on mange avec la bouche, d'arrêter la vie ancienne où on mangeait, où on respirait par le cordon ombilical. Beaucoup n'ont pas du tout changé. Ils ont changé juste de Dieu officiellement, mais le fonctionnement continue. Si avant, il comptait sur lui-même ou sur son salaire pour s'acheter de vêtements, maintenant, il continue toujours à être esclave des vêtements et il compte maintenant sur Dieu pour lui acheter ça. Ce n'est pas bon. Le fonctionnement n'a pas changé. Il n'y a pas eu une ouverture à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Et Dieu peut donner même plus que ce qu'on avait avant. Mais il donne ça à quelqu'un qui n'est plus lié. Il donne ça à quelqu'un qui n'est plus bloqué par les choses avant. Il donne ça à quelqu'un pour qui Dieu est le plus grand trésor. Il faut changer, bien-aimé. Jésus est clair. Si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même. Notre société nous pousse à la modération par rapport à Dieu. Et c'est faux. Beaucoup sont dans la modération parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « Vous êtes dans une secte. Tu es entré dans une secte. » Bien-aimé, Jésus n'a pas eu peur de paraître anormal en annonçant qu'il allait souffrir et mourir. Il y a des gens, ils veulent continuer avec leurs amusements d'autrefois et ils veulent prêcher un évangile modéré. Et nous connaissons toujours leur fin. Ils finissent clairement par servir le diable. Au début, ils vont citer le nom de Dieu, ils vont citer le nom de Jésus, tout en insistant sur le fait qu'il faut être modéré. Mais nulle part c'est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit, celui qui veut me suivre doit renoncer totalement à lui-même. Ce qui est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si il peut nous arriver d'avoir des faiblesses, des tentations, mais notre fonctionnement a changé. Notre centre d'intérêt a changé. Notre marche a changé. C'est ce que Dieu attend de nous. Une conversion véritable. Une vie à 100%. Lui-même l'a fait pour nous. faisons attention à tous ceux qui vont nous amener à servir Dieu d'une manière calculée. C'est ce que Pierre a voulu faire pour Jésus. Il a voulu l'entraîner dans le calcul, à dire, mais oui, mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu fais déjà suffisamment pour Dieu. Bien-aimé, seul Dieu peut te dire si tu fais suffisamment pour lui. Il y a un homme qui a été accusé injustement d'avoir voulu tuer sa femme. Puisque entre-temps, sa femme avait reçu ce coup-là, elle croyait que c'était son mari, mais après, elle est devenue amnésique. Elle ne se rappelait plus de ce qui s'était passé clairement. Elle a fini par dire que c'était son mari qui l'avait frappé. Or, ce n'était pas son mari. C'était un voleur, c'était un violeur qui l'avait fait. Mais qui était juste entré au moment où son mari sortait, de sorte qu'elle, elle pensait que c'était son mari, dans la pénombre. Et le monsieur a fait environ 15 à 16 ans en prison, jusqu'à ce que le vrai criminel lui-même avoue. Vers la sixième année de prison, il a voulu se suicider. Et il a dit, « Dieu, aide-moi !» Et quand il a dit ça, il a senti une force l'envelopper. Beaucoup d'entre nous attendrions quoi ? Quand cette force-là t'enveloppe, dans 2 jours, qu'on vienne frapper pour dire, « Mais tiens, on a trouvé le criminel, sort. » Mais non, le monsieur est resté encore 8 ans. Malgré cette force divine qui l'a enveloppé, qui lui a donné la paix, il est resté encore 8 ans. Sachant que à l'époque où lui avait été arrêté, ils n'utilisaient pas l'ADN. Mais 4 ans plus tard, c'est-à-dire que au moment où il a reçu la révélation divine, 2 ans après ce moment-là, il pouvait déjà sortir de prison si on avait fait les tests ADN sur les choses qu'on avait recueillies sur la scène de crime. Mais ça n'avait pas été fait. Beaucoup d'entre nous dirions, mais comment Dieu l'a laissé comme ça? Lui-même a dit, mais comment Dieu m'a laissé 8 ans encore alors que je pouvais déjà sortir? Parce que 8 ans après, c'est le test ADN qui l'a disculpé. On se poserait la question, puisque le test était possible 8 ans avant, comment ça n'a pas eu lieu? Lui-même, il a répondu, il a dit, j'ai compris que Dieu m'a fait passer par là parce qu'il savait que j'allais tenir et il voulait faire quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, puisque parfois il peut arriver que notre conversion soit tronquée, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre des situations pour permettre la vraie conversion. Il va mettre des circonstances pour nous amener à lâcher prise. Parfois, on peut être dans une conversion véritable, mais on reprend le vieil homme. Dieu va permettre des circonstances, des événements pour nous amener dans la profondeur, à mourir. Il n'y a pas de gloire sans la mort. C'est en ce moment-là que nous devons lâcher prise et accepter de perdre. Vous savez, même les païens le disent. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Ce ne sont pas des chrétiens qui le disent, c'est les païens qui le disent. Beaucoup, même quand ils sentent qu'ils sont dans une mauvaise voie, l'orgueil les empêche de s'arrêter, de dire « j'ai perdu, Dieu a gagné ». Jérémie a dit « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé et tu m'as vaincu. Tu as été le plus fort. » Il s'est arrêté, il voulait se rebeller contre Dieu. Il a dit non, ma vie n'est que malheur sur malheur. Mais Dieu a un but pour chacun. Dans ce malheur sur malheur, il y a une œuvre qu'il accomplit. Cette œuvre-là nécessite la mort. Peut-être que tu résistes plus que d'autres. Il faut passer par ce que tu passes. Ne te crois pas parfait. Il est écrit dans Proverbe 3, « Ne te crois pas sage à tes propres yeux. » Dans Romains 12, c'est écrit la même chose. Ne soyez pas sages pour vous-même. On se dit, mais pourquoi je vis ce que je vis? Ben, tu vis ce que tu vis parce qu'il faut que toujours la mort soit là afin que la vie de Dieu se manifeste. L'apôtre Paul nous l'explique, parce qu'il y a trop de passages, nous l'explique dans 2 Corinthiens 4. La mort nous atteint afin que la vie soit en vous. Que ce soit une conversion tronquée ou une véritable conversion, le Seigneur nous amènera à mourir. Parce qu'il veut du 100%. Il permettra des événements qui nous poussent à pardonner alors qu'on pouvait tuer. J'ai lu le témoignage d'un aumônier de prison. Il dit, à chaque fois que j'entrais parler à un prisonnier, je me voyais à sa place. Parce qu'il fut un temps où on avait enlevé ma fille et j'avais pris la décision de commettre des crimes. Mais Dieu m'avait arrêté. Et si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait commis aussi des crimes. Et donc quand il voyait un prisonnier, il se voyait dans le prisonnier. Bien-aimé, nous subissons des événements difficiles. Mais Dieu sait que sans ces événements-là, on ne serait pas mort. Comme Moïse, qui est mort avant d'aller voir Pharaon. David, qui est mort avant d'aller frapper Goliath. Vous imaginez combattre un géant comme ça avec des pierres. Donc il était déjà mort. Le Seigneur nous amènera à la mort. Celui qui l'acceptera entrera dans la vraie vie. Celui qui ne l'acceptera pas restera vivant, mais il perdra sa vie. Jésus le dit dans la suite. Tout est dans ce Matthieu 16. Il dit, quiconque en effet voudra, verset 25, sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Bien-aimés, nous devons être des pains brisés entre les mains du Seigneur. Souvenez-vous de cette femme qui a brisé tout son parfum sur le Seigneur. Tout le parfum. Il y a eu des gens qui étaient dans l'entourage. Ils ont dit, oh, mais une goutte du parfum suffisait. Elle n'avait pas besoin de verser tout. Dans une autre version, on dit, mais elle a même brisé le vase. Bon, est-ce qu'il fallait briser le vase en plus? Elle pouvait verser seulement. Pourquoi briser encore le vase? C'est inutile. Voilà le raisonnement humain. On ne peut pas servir Dieu avec des raisonnements humains. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Le raisonnement humain te dira, l'essence coûte cher. Tu ne peux pas aller en mission pour Dieu. Tu ne peux pas aller servir Dieu. C'est le raisonnement humain. Cherche Dieu, bien-aimé. Je ne suis pas en train de prêcher l'activisme. Ça ne sert à rien de faire des activités si ça ne vient pas du cœur. Je suis en train de prêcher le fait que tu ne dois plus exister. C'est Jésus qui doit exister maintenant en nous tous. C'est ce que je prêche. Et comme nous avons tous dit dans nos bouches, à travers les chants et les paroles, les prières que nous nous donnons à Dieu, même quand nous-mêmes nous n'avons pas décidé, Dieu va permettre des circonstances pour nous amener à cette mort. Acceptons cette mort-là. C'est important, bien-aimé. Il y a des moments où le diable te montrera qu'on t'a fait trop de mal, tu dois te venger. C'est le moment que Dieu a choisi pour t'amener à ta mort, pour dire, Seigneur, je pardonne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a fait. Bien-aimé, il n'y a pas de christianisme sans la mort. Pierre a tout laissé. Ils avaient fait une pêche miraculeuse. Il est écrit, ils laissèrent tout, ils abandonnèrent tout. Et le suivirent. Ils suivirent Jésus-Christ. Ils ont tout abandonné. Est-ce que Pierre était parfait? N'est-ce pas qu'on a vu Pierre par la suite faire l'hypocrite chez les Galates. Et Paul l'a repris. Est-ce qu'on n'a pas vu Pierre par la suite renier Jésus? Mais c'était la chair, c'était la faiblesse qui s'était manifestée, mais le cœur de Pierre était à Jésus. D'ailleurs, quand Jésus lui a dit, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes ?» Il a dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Amen. » Il savait que sa vie n'était plus à lui. Même s'il pouvait lui arriver de tomber, il savait que sa vie était à Dieu. Dieu devait faire sa volonté dans sa vie, bien-aimé. Nous ne prêchons pas l'activisme, ni nous ne disons pas que celui qui a péché, il n'est pas converti. Non, pas du tout. Nous disons tout simplement ce que Jésus a dit, il faut des outres neuves pour le vin nouveau. Il faut changer de façon de réfléchir. Il faut changer de vie, carrément. C'est tout. Tu étais dans le ventre, maintenant tu es sorti. Il faut respirer par le nez. Il faut manger par la bouche. C'est tout. Ce qu'on dit. Maintenant, il faut vivre selon ce qui est écrit dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de dire « selon ma pensée ». Non. À moins que ce soit un point qui ne soit pas clairement écrit dans la parole. Mais tout est écrit dans la parole. Prenons exemple sur ce qui est écrit lorsque nous prenons des jugements, lorsque nous parlons, lorsque nous travaillons, lorsque nous collaborons. Faisons les choses en fonction de ce qui est écrit, non pas en fonction de nos raisonnements. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tu veux m'empêcher d'accomplir ma mission. Tout celui qui veut nous amener dans la modération n'est pas de Dieu. Toute phrase de ce genre-là ne vient pas de Dieu. Il peut se faire que même un vrai chrétien, par inadvertance, nous amène des raisonnements de ce genre-là. Refusons. Avec Dieu, il faut tout donner. On n'existe plus, c'est lui maintenant qui prend le contrôle. L'apôtre Paul nous le dit encore dans 1 Corinthiens 6, 19. Il dit, vous ne vous appartenez plus parce que vous avez été rachetés à grand prix. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à celui qui vous a rachetés. Vous entendez souvent le mot rédemption. Le mot rédemption, ça veut dire rachat d'un esclave. Mais quand tu rachètes un esclave à quelqu'un, il devient ton esclave. Tu ne le rachètes pas pour qu'il soit libre. Une personne qui était esclave d'un homme riche, quand toi tu viens racheter cette personne, c'est pour que cette personne devienne ton esclave à toi. Quand Dieu nous a rachetés, c'est pour le servir lui. Ce n'est pas pour l'utiliser pour nos anciens besoins et nos anciennes formules. C'est pour le servir lui. C'est ce qui doit compter. Il y a beaucoup à dire, je vais lire beaucoup de versets et puis on conclura dans la prière et chacun écoutera. Luc au chapitre 9. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières. » Et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus leur dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Amen. Voilà. Il dit clairement, je ne te promets pas les châteaux. Je te dis que je n'ai même pas de maison. Si tu veux me suivre, sache-le. Eh bien aimé, le chrétien qui veut suivre, si tu veux suivre Jésus, parmi nous, tu veux suivre Jésus, sache qu'il ne te promet pas du matériel. Il te promet que tu deviens enfant de Dieu. Et que celui qui a fait les cieux et la terre devient ton père. Et que tu entres dans une nouvelle vie. Et maintenant, dans cette nouvelle vie, Dieu s'occupera de toi. Mais ça passera soit par des souffrances, ça passera soit par la mort, mais ça aboutira par la résurrection. Et la gloire de Dieu sera avec toi. Il te promet cela. C'est ça la réalité, bien-aimé. Et nous lisons encore Matthieu 15. Matthieu 15. Jésus partit de là, verset 21, et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors, que dirions-nous de cet épisode? Jésus a-t-il été méchant? Non, Jésus a voulu sortir totalement ce qui était dans le fond de cette femme. Il a voulu sortir le meilleur. C'est pourquoi il l'a fait traîner pour que cette femme crie, « Jésus, même malgré les apparences, je crois que tu es bon. Les miettes que tu as, les miettes de ce que tu as réservé pour Israël sont toutes puissantes pour nous guérir, nous les païens. » Et sa fille fut guérie à l'instant même. Jésus va nous pousser à bout. Vous savez, il y a des moments où on aura l'impression même que Dieu est contre nous. On se dit, oh, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Non, Dieu veut sortir totalement. En réalité, les gens qui sont des amis de Dieu ont fini par comprendre que les difficultés étaient belles, étaient précieuses. Pierre dit que l'épreuve a plus de prix que de l'or. Paul dit que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Les amis de Dieu ont fini par comprendre, ah, les difficultés finalement m'ont montré la gloire de Dieu, m'ont montré mes fautes, mon cœur impur ne s'est manifesté que lorsque la souffrance a commencé à venir, lorsque la difficulté est venue, c'est là que j'ai compris mes erreurs. Maintenant, Dieu s'est révélé à moi, je ne suis plus la même personne, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas subir l'oppression, les difficultés, même de l'entourage, même des humains, bien-aimé. Dieu va nous purifier par la souffrance, par la mort. Il va nous élever en même temps. Il va glorifier son nom. Le Seigneur veut nous enlever bientôt et il a besoin d'une église véritable. Bien-aimés, il a besoin de véritables chrétiens. À quoi cela va servir de faire 20 ans, 30 ans, aller régulièrement dans les cultes, dans les réunions chrétiennes, alors qu'on ne l'est pas? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'impressionner les humains et le jour du jugement? Tu perds. Je me souviens quand on était à l'université, il y a des gens, des élèves, pendant les travaux dirigés, dès que le professeur mettait un exercice au tableau, il levait la main pour aller résoudre. Mais je crois qu'il lisait ça dans les livres déjà à l'avance. Il nous impressionnait. Et le jour des examens, après les examens, quand on allait voir la liste des gens qui étaient reçus pour l'année suivante, ils n'étaient pas là. Mais ce n'est pas possible. Lui, il faisait tout le temps les exercices au tableau. Voilà. Il impressionnait les humains alors qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. À quoi ça sert d'impressionner les humains, de se satisfaire soi-même? Et alors qu'on n'est pas à 100% avec Dieu. Bien-aimé, à quoi ça sert? Nous ne voulons pas servir à l'illusion. Nous refusons ça. Nous voulons prêcher ce que Jésus lui-même a dit, afin que celui qui croit aille au ciel, qu'il devienne enfant de Dieu. Bien-aimé, nous ne devons pas chercher à remplir les salles. Nous devons chercher à remplir le ciel. Bien-aimés, c'est ça qui est important. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, Philippiens 3, Philippiens 3, il faut savoir une chose, Dieu nous connaît. Comme le monsieur qui avait fait 16 ans en prison, il a dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Il savait que je tiendrais. Il nous connaît. Il sait par quel chemin nous faire passer pour sortir le meilleur. Pour ne pas que nous gardions ce qui était ancien, pour que tout soit réellement nouveau. Philippiens chapitre 3, il est écrit ceci, à partir de verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Paul a compris qu'il fallait devenir conforme à Jésus dans sa mort et ses souffrances pour aller de l'autre côté. Il fallait qu'il soit conforme aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ. Ce que beaucoup refusent sous prétexte de modération, de calcul et à cause de l'égoïsme et de l'individualisme. Ce faisant, ils perdent tout parce que la gloire de Dieu est supérieure à n'importe quel humain, supérieure à nos biens, supérieure à nous-mêmes. Celui qui est faible pour Dieu, celui qui perd tout pour Dieu, il gagne Dieu lui-même. Alors je préfère gagner Dieu, même si je perds la face aux humains. Mais gagnons Dieu, bien-aimés. Cherchons Dieu. Fonctionnons pour Dieu. Il y a des moments où on ne pourra pas tout justifier. Laissons Dieu faire. Croyons en Dieu. Dans une église de Rouen, il y a un verset qu'ils ont mis. Ayez foi en Dieu. J'aime beaucoup ce verset-là. Tu entres dans leur église, c'est écrit « Ayez foi en Dieu ». Et avoir foi en Dieu, c'est aussi mourir. Parce que le raisonnement humain te poussera à agir. Mais Dieu dit, ayez foi en moi. C'est aussi la véritable vie chrétienne. Bien-aimés, que chacun s'examine et entre dans la vraie conversion. Vivre à 100% pour le Seigneur. Ce qui veut dire mourir à nous-mêmes, arrêter les calculs et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Marcher selon ce qui est écrit et non selon nos raisonnements. Marcher dans la vérité, dans la transparence et non dans l'obscurité et dans le compromis personnel. Amen. Prions le Seigneur. Nous n'allons demander à personne de passer devant. Nous ne voulons pas être un obstacle à cause d'une honte quelconque qui serait encore une sorte de démonstration qui est un problème. Nous voulons que ça soit personnel. Cependant, les gens qui estiment quand même que cela doit être passé par une discussion avec les responsables pourront toujours nous voir pour prier ensemble pour qu'ils entrent dans une véritable vie chrétienne où on est mort réellement et Jésus-Christ prend le contrôle. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous sommes devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu ne nous as pas lâchés. Tu as voulu nous dire ce qui est essentiel, ce que chacun devait renoncer à lui-même. Chacun ne devait plus se croire sage selon à ses propres yeux, mais prendre la parole et lire la parole et chercher ce que tu lui dis. Seigneur, lorsque nous voyons l'église d'Éphèse, cette église en apparence était parfaite. Mais tu as dit aux gens de cette église qu'ils avaient à se repentir parce qu'ils avaient perdu le premier amour. Le premier amour, c'est un amour qui n'accepte pas de calcul, qui se vit comme un enfant. Seigneur, aide-nous à vivre comme des enfants entre tes mains. Il est écrit, Seigneur, que le cœur de l'homme est tortueux. Mais il est écrit aussi dans Romains 8 que tu peux changer nos cœurs, nous donner un cœur nouveau. Seigneur, nous ne perdons rien en nous donnant totalement. Nous te gagnons, toi, Jésus, qui est la source de tout, la source de paix, de joie, de protection et de bénédiction. Avec toi, nous arriverons à destination, à coup sûr. Seigneur, c'est la vérité. Nous ne voulons pas faire comme certains, croire à la vitesse de leur véhicule, rouler très vite et faire un accident, n'arriver pas à la destination. Nous voulons croire qu'en t'obéissant, qu'en nous offrant à toi, même quand nous sommes dépassés, toi, tu peux nous envoyer un hélicoptère pour raccourcir le chemin. Car tu es tout puissant et capable de tout. De toute façon, Seigneur, qu'est-ce que nous avons à gagner dans ce monde? Est-ce que l'alcool a donné la joie, la vraie paix aux gens? Est-ce que la sexualité débridée a donné la vraie paix aux gens? Tant de gens qui ont ces possibilités de lucre, de luxure, de mensonge, ne meurent-ils pas de suicide? Ne divorcent-ils pas? Nous croyons que le vrai bonheur se trouve en toi. Tu es plus fort, que tu donnes des choses beaucoup plus merveilleuses que ce que le monde peut donner. Mais nous avons besoin de fonctionner différemment pour réaliser cela. Aide-nous, Seigneur, à nous lâcher et accepter les épreuves de purification que tu envoies. Accepter de nous humilier quand il le faut, parce que c'est ça qui produira la mort, qui nous fera accéder à la résurrection. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Bien-aimé, est-ce que vous savez que la dame qui a perdu son mari et ses deux enfants à l'école de Toulouse, elle a lancé un message sur Internet que ce que nous devions faire, c'est prier que les gens lisent la Torah, la Bible, parce que c'est elle qui produit la lumière. Si son mari et ses enfants sont morts, c'était le choix de Dieu pour un plan que peut-être nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, mais Dieu veut toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Ce sont des telles personnes que Dieu cherche, qui ont compris que le raisonnement nous trahit. Le raisonnement va dire, mais pourquoi? Pourtant, c'est un homme qui enseignait la Torah. Pourquoi subir de telles choses? Mais bien aimé, sur la terre, nous ne faisons pas plus de 120 ans. Mais nous avons des milliards d'années au ciel. Pourquoi nous embêter pour les 120 ans d'ici-bas? Pourquoi ne pas laisser Dieu faire son plan dans nos vies? S'il faut que nous soyons crucifiés, que nous le soyons, parce que la gloire nous attend. Alléluia. Entre tes mains.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
Prends tout.
I surrender all. Oui, I surrender all. Entre tes mains, blessed Seigneur,
je n'ai pas peur de te suivre.
Je n'ai pas peur de te suivre.
Comme Moïse, comme David face à Goliath.
Chemin de la croix.
C'est pour toi.
C'est pour toi que je